Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier.
Et il va falloir tenir son rang, la France favorite cet après-midi face à la Pologne en huitième de finale de la Coupe du Monde. Jacques Vendroux est avec nous dans un instant, tout comme notre consultante Wendy Renard pour parler technique et enjeux. Les Bleus qui auront bien besoin du 13e homme ou du 12e homme cet après-midi au stade ou pas. Nous entendrons un petit florilège de chants de supporters. Emmanuel Macron se veut rassurant sur les coupures d'électricité. Selon le chef de l'État, la France pourra surmonter l'hiver tant que le plan de sobriété est respecté, mais vous l'entendrez, tous les experts ne partagent pas forcément cet avis. Nous parlerons également politique du côté des Républicains qui est favori pour prendre la tête du parti. Difficile à dire alors que les adhérents ont jusqu'à 18h pour voter. Les résultats seront annoncés dans la foulée. On sera avec Alexandre Chauveau qui suit l'élection pour Europe 1 et Jérôme Sainte-Marie, sondeur et politologue, sera également mon invité pour commenter cette actualité. Et puis l'Iran qui abolit ce matin sa police des mœurs. Est-ce un signe que la révolte commence à porter ses fruits? Nous verrons cela également dans Europe Midi Weekend. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien les naïques, neige, froid, grisaille, dû à l'air très froid venant de Russie et l'air doux et humide qui remonte de Méditerranée.
Une météo complète juste avant 13h. L'heure de vérité pour les Bleus, nous dit le JDD. Nouveau défi pour les Bleus de Deschamps, écrit Le Parisien, et les Bleus en pole position pour le journal L'Équipe. Vous l'avez compris, on parle foot ce midi sur Europe 1.
La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022,
c'est dans Europe Midi.
Bonjour Jacques Vendroux.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar. France-Pologne, c'est à 16h en huitième de finale de la Coupe du Monde. Est-ce que la ferveur s'est un peu emparée de Doha ?
La ferveur s'est emparée de l'équipe de France de football.
C'est déjà ça.
Très clair, il y a des équipes très populaires ici. Il y a notamment l'équipe d'Argentine et l'équipe du Sénégal et même l'équipe d'Angleterre. Mais c'est vrai qu'actuellement, au moment où on parle, eh bien, il y a un phénomène bleu dans Doha et dans la banlieue de Doha. Et tout le monde attend évidemment le match France-Pologne de tout à l'heure à 16h en direct sur Europe 1.
Alors la compo, Jacques, est identique à celle du match contre le Danemark. C'est logique, ça y est, chacun est à sa place ?
Non, chacun est à sa place et puis une certaine forme de sécurité de la part de Didier Deschamps. Loris dans les buts, en défense Koundé, Varane, Upamecano et Théo Hernandez, bien sûr, qui devient l'un des hommes les plus importants de cette équipe parce que c'est le seul latéral gauche de l'équipe de France. Au milieu de terrain, Tchouaméni qui prend beaucoup de grandeur, entre guillemets, dans cette équipe de France. Il y a Griezmann, Rabiot, Dembélé et devant, eh bien, il y a Mbappé et surtout Olivier Giroud. Et vous l'avez dit, c'est un match important. La qualification, bien sûr, pour l'équipe de France de football pour les quarts de finale. Le record de Loris qui est en train d'égaler le record de sélection de Lilian Thuram, 142 oui. sélections, 118 capitana. Vous vous rendez compte, 61 matchs avec l'équipe de France sans encaisser un seul but. Et puis un autre record, alors là, c'est fait plaisir à tout le monde, notamment à Cyril de la Morinerie.
Je sais de qui vous allez
le
parler.
Le record, voilà, le record d'Olivier Giroud. S'il avait la bonne idée de marquer aujourd'hui, donc le record Thierry Henry, le 52e but, ça voudrait dire qu'on a mis un but et ça voudrait dire qu'on a une petite chance d'être qualifié pour les quarts de finale. Donc on n'est pas loin du bonheur total.
Alors on a quand même un Lewandowski qui vit sans doute ses meilleurs moments en ce moment. Il faut faire quoi quand on est défenseur français pour le coincer au maximum, Jacques ?
Eh bien il faut décider, faut revenir un peu au football à l'ancienne, si je peux me permettre, dans une autre vie, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du marquage individuel.
Oui.
C'est-à-dire que dans une autre vie, il y avait des grands joueurs qu'il fallait neutraliser, que ce soit Pelé, à qui on souhaite un bon rétablissement, que ce soit Maradona, Platini, Zidane, il fallait les neutraliser. Et donc, la seule solution, c'est de faire ce qu'on appelle le marquage, c'est-à-dire vous désignez un joueur de l'équipe de France qui ne lâche pas d'une semelle, eh bien c'est le cas de le dire, eh bien Lewandowski, qui est quand même l'un des meilleurs avant-centres du monde de tous les temps et qui va jouer contre le meilleur gardien de but du monde du moment, enfin l'un des meilleurs gardiens, qui est Hugo Lloris. Donc il y a déjà un match dans le match. Mais il ne faut pas non plus s'imaginer que Lewandowski peut tout faire. Il y a d'autres joueurs qui sont peut-être moins forts que lui, mais Lewandowski ne pourra pas régler tous les problèmes, sauf il ne faut surtout pas lui laisser la moindre occasion d'avoir le ballon dans la surface de réparation. Autrement là, c'est danger.
Eh ben, merci beaucoup Jacques, on vous libère, on sait que vous allez au stade à l'instant. Bon match à vous. Alors Cyril de la Morinerie qui était avec nous ce matin et qui est au Qatar lui aussi, nous disait que les Bleus s'étaient entraînés hier avec sourire et détermination. Ils prennent ce match très au sérieux. La Pologne, on vient de l'entendre avec Jacques Vendroux, a un buteur, Robert Lewandowski, qui est un buteur de feu. Alors méfiance quand même, hein, nous prévient notre consultante Wendy Renard.
C'est une très belle équipe polonaise, bien sûr qu'il n'y a pas un jeu comme le nôtre ou même comme d'autres nations, mais qui a un buteur exceptionnel. Des lignes très compactes, très serrées, avec un bon gardien, donc il va falloir être très juste techniquement, mettre du rythme. Les très peu de fois où ils vont sortir à la récupération du ballon, il va falloir aller vite. Il va falloir être intelligent, garder ses émotions, maîtriser, et puis avec le ballon, faire mal, hein, tout simplement.
Wendy Renard, consultante foot pour Europe 1 pendant toute cette Coupe du Monde. Faire mal au sens figuré, et en tout cas, on l'espère, il y aura du spectacle, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Le 12e homme va devoir donner un petit peu de la voix. Ou pas, on voit ça avec vous. Bonjour Nina Droff.
Bonjour.
Alors dans les tribunes aussi, il y aura match entre les supporters.
Oui, j'espère que vous êtes chauffé la voix pour pouvoir chanter au stade, au bar ou devant votre télé. Du côté de la France, les supporters sont arrivés au Qatar avec un tout nouveau chant spécialement pour ce mondial, mais il a encore un peu de mal à convaincre.
On a une étoile, on a deux étoiles, on veut la troisième étoile.
Voilà, on a entendu plus entraînant, mais heureusement il nous reste toujours nos classiques pour pouvoir ambiancer les tribunes. Du côté de la Pologne aussi, les supporters sont connus pour donner de la voix dans les stades, comme on a pu l'entendre lors de leur match face à l'Argentine.
Polska, Polska, Polska,
Polska qui signifie Polska. Pologne, bien sûr. Et il y aura aussi des chants à la gloire de l'attaquant star de l'équipe polonaise, Robert Lewandowski, on en parlait tout à l'heure. Il a déjà inspiré plusieurs artistes, comme le chanteur allemand Ike Ufgol, qui lui a consacré cette chanson. Voilà la gloire du chant du joueur polonais à l'allemande. On espère
on
en tout cas que les Bleus remporteront ce match pour qu'on puisse danser là-dessus jusqu'à la fin du mondial.
Ramenez la coupe à la maison. Allez les Bleus, allez. 20 ans après, c'est le moment.
La revue des rues de chant de supporters avec le pire et le meilleur avec Nina Droff ce matin. En tout cas, si vous jouez au football, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Sécher le match avec votre club pour regarder celui des Bleus ou bien l'inverse ? C'est un choix cornélien pour beaucoup d'entre vous. Direction le FC ici qui joue cet après-midi contre le Racing Club Colombes. Le coup d'envoi sera donné pile au même moment que le match de l'équipe de France et Guillaume Dominguez a pu rencontrer l'équipe d'ici à l'entraînement d'avant-match.
Le thermomètre affiche 4 degrés ce matin sur le terrain d'entraînement. Jérôme, le capitaine de l'équipe, commence à s'échauffer un petit peu à contre-cœur depuis qu'il sait qu'il va louper le match de l'équipe de France.
Dégoûté. De base, on devait jouer à 14h, mais ils ont changé notre heure, ils nous ont mis à 16h. J'ai hésité à l'enregistrer, mais c'est impossible parce que j'aurais forcément les résultats à un moment, quelqu'un va sortir son téléphone, donc tant pis.
Emmitouflé dans sa parka, Mohamed, lui, tente de motiver ses joueurs. En tant qu'entraîneur, il sait que ces huitièmes de finale peuvent avoir des conséquences sur sa feuille de match.
Va falloir s'attendre à quelques absents, mais après, je pense que dans l'ensemble, ils seront plus ou moins tous disponibles et j'espère qu'ils se donneront à fond parce que la victoire pour nous ce dimanche elle est aussi importante que celle pour l'équipe de France.
Le FC ici qui va tenter d'aller chercher une victoire à l'extérieur avant la trêve hivernale, victoire qui pourrait leur permettre de remonter au classement de la première division du district 92.
Allez, France-Pologne, c'est à 16h le coup d'envoi, mais dès 15h évidemment dans Europe 1 Sport. L'autre affiche du jour, c'est Angleterre-Sénégal à 20h. On rappelle qu'après sa victoire sur l'Australie, l'Argentine a rejoint les Pays-Bas en quart de finale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le foot. D'un mot tout de même, quelques nouvelles de Pelé qui se sent fort et plein d'espoir. C'est ce qu'il dit dans un message sur Instagram. Il a souhaité rassurer sur son état de santé. Il est toujours hospitalisé à São Paulo depuis mardi à cause d'une infection respiratoire. Il poursuit son traitement contre un cancer du côlon. Pelé qui assure que les messages de soutien lui procurent assez d'énergie pour suivre justement la Coupe du Monde au Qatar.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monier. Midi 38 sur Europe 1, alors qu'il fera pas loin de 30 degrés au coup d'envoi du match. Nous ici, on a un peu froid. C'est vraiment le retour de l'hiver météorologique ce week-end. Ça nous fait tout drôle après la douceur des dernières semaines. Alors on a ressorti les doudounes et les gants. Et pourtant, croyez-le ou non, les températures ne sont pas si basses que ça pour la saison. Alexandra Gégy.
Le thermomètre dans la croix verte de la pharmacie affiche 6 degrés, mais ses passants, emmitouflés dans de gros manteaux, ont l'impression qu'il fait bien plus froid.
Enfin, j'ai l'impression qu'il fait même 0 degrés. Oui, il fait très froid, oui. Ce qui me gêne, c'est que le froid, il arrive un peu trop tôt.
Il y a le petit vent frais qui fouette le visage et je pense qu'on ressent plus le froid, en fait.
Vous pouvez mettre autant de pulls que vous voulez et vous êtes frigorifié.
Pourtant, pas question de parler de vagues de froid. D'après Météo France, il faut qu'il fasse moins de 1 degré pendant plus de 3 jours consécutifs. La dernière fois, c'était en 2012. Ce n'est pas le cas actuellement. Mais sobriété énergétique oblige. Les chauffages baissés à 19 degrés peuvent expliquer pourquoi on a l'impression d'avoir si froid, selon Alain Froment, anthropologue.
Notre température d'équilibre, c'est-à-dire quand on est habillé légèrement ou on n'a ni chaud ni froid, c'est autour de 23 degrés. Donc, si on nous conditionne à des vies en appartement inférieures à ce seuil, le sentiment de froid va revenir.
Cette sensation de froid hivernal ne devrait pas persister. Les températures devraient remonter dès le début de la semaine prochaine.
Le reportage européen d'Alexandra Gégé. En tout cas, nous devrions pouvoir nous chauffer cet hiver. Emmanuel Macron appelle les Français à ne pas paniquer face au risque de coupure d'électricité. Il estime qu'elles peuvent être évitées si le plan de sobriété est respecté et que la consommation baisse bien de 10% par rapport à d'habitude. L'inquiétude grandit depuis la présentation cette semaine des mesures prévues par le gouvernement pour faire face à des coupures. Les écoles ne seraient pas épargnées, tout comme les transports. Alors chez nos confrères de TF1 hier, le président s'est voulu rassurant.
Pas de panique. C'est normal que le gouvernement prépare un cas extrême parce que les dernières années nous l'ont montré, parfois l'impensable arrive. Bon. Et donc c'est la responsabilité du gouvernement en lien avec tous les acteurs compétents, de préparer ces scénarios pour permettre que le pays ne soit pas en désordre complet. C'est des choses très pragmatiques, pas faire partir les trains si dans quelques heures après, on doit couper l'électricité, des choses comme ça. Ce sont des scénarios, j'allais dire fictifs, oui, mais il faut les préparer pour que tout le monde soit là.
Emmanuel Macron et même tonalité de la part de la ministre de la Transition énergétique. Le délestage, c'est le dernier recours, confirme Agnès Pannier-Runacher dans le journal du dimanche ce matin. Elle précise également que le gouvernement n'envisage pas d'éteindre les hôpitaux ni les lieux liés aux forces de l'ordre et aux pompiers. Un pas de panique en tout cas qui ne convient pas à tout le monde, à l'image de Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Écoutez.
Le président, il est bien optimiste. Si on a un hiver très rigoureux, des températures en dessous de zéro, des grands froids, là vous avez des pics de consommation. Et ces pics, si on n'a pas en face la production réalisée en France, soit on diminue cette consommation en faisant ces coupures alternées entre différents pays, soit une explosion des factures d'électricité parce que nous allons importer énormément d'électricité. Et le problème, c'est que quand il fait froid en France, il fait froid aussi en Allemagne et dans les autres pays qui vont aussi avoir besoin d'électricité. Donc le prix de marché va exploser.
Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, invité de Pierre de Villeneuve hier sur Europe 1. Il est midi 42, bienvenue à tous si vous nous rejoignez, merci de nous accompagner. On ouvre une page politique dans un instant, match à 3 chez LR. Qui emportera la mise entre Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier? Et en fonction du résultat, quel positionnement pour le parti? Je reçois d'ici quelques instants le politologue Jérôme Sainte-Marie. A tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier. Il est 1h moins le quart sur Europe 1. Bienvenue à tous. Et c'est un peu l'autre match du jour chez les Républicains. Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier. Les 91 000 adhérents LR ont commencé à voter hier pour désigner leur futur président. À 20h hier, la participation était à 24%. Et c'est ce soir, à partir de 18h, qu'on connaîtra le vainqueur ou bien les deux qualifiés pour le second tour. Issue pour le moins incertaine. Alexandre Chauveau, quelles sont les clés du scrutin ?
La première clé, c'est la carte électorale. LR revendique 91 000 adhérents, soit 40 000 de plus qu'au mois de juin dernier. Les trois candidats se sont battus pour faire adhérer le maximum de militants, notamment Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Le vote de ces nouveaux inscrits pourrait donc, en cas de forte mobilisation, peser dans l'issue du scrutin. Autre interrogation, l'influence de Laurent Wauquiez. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a publiquement soutenu Éric Ciotti, qui en a fait un argument de campagne. Le Niçois a indiqué qu'en cas d'élection, il ferait de Wauquiez le candidat de la droite pour la présidentielle de 2027. Et puis, on saura à l'issue du scrutin si la rupture souhaitée par Bruno Retailleau avec Nicolas Sarkozy sera payante. Des trois candidats, le Vendéen est celui qui a le plus plaidé le divorce avec l'ancien président et fondateur des Républicains. Enfin, le scrutin du premier tour donnera une indication sur l'importance des faits d'actualité. L'enquête du parquet national financier sur le cumul d'emplois de l'ex-épouse d'Éric Ciotti, par exemple, ou les propos de Grégoire de Fournasse à l'Assemblée, condamné par le député des Alpes-Maritimes, mais défendu sur sur le fond par Bruno Retailleau.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et c'est dans ce contexte d'élection interne que le maire LR de La Baule dit avoir un doute sur l'étanchéité de son parti avec le Rassemblement national. Dans le journal du dimanche, Franck Louvrier, qui est un proche de Nicolas Sarkozy, souhaite plutôt un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron. Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Bonjour Sander, politologue, président de Pollingvox. L'enjeu du scrutin LR, c'est ça? C'est le positionnement du parti?
Oui, enfin, j'en suis pas persuadé, puisqu'au fond, les différents candidats n'ont pas, il n'y a pas de véritable rupture stratégique entre eux. C'est-à-dire, personne ne préconise, par exemple, une alliance avec Macron, personne ne préconise une alliance avec le Rassemblement national. Et c'est bien entre ces deux forces qui est déchirée de plus en plus la droite. C'est à cause de cela que la droite n'a pas été présente au second tour en 2017. C'était un traumatisme, mais on pouvait penser que c'était un accident lié, enfin certains, ils voulaient penser que c'était un accident lié aux affaires de M. Fillon. Mais ensuite, il y a eu par exemple les européennes pour un scrutin national avec moins de 9% pour la liste de droite, et puis plus récemment, moins de 5% pour la candidate de droite. Donc, aussi une impasse stratégique pour l'instant totale, et on a l'impression surtout que les différents candidats préconisent de jouer la montre, si je puis dire, c'est-à-dire d'attendre, de tenir quelques années en disant « bon, bah, finalement, la prochaine fois, le président de la République sortant ne pourra pas être de nouveau candidat et peut-être que nous avons un rôle à jouer. »
Donc pas de risque que le parti explose selon vous?
Vous savez, le parti tient actuellement par une assise locale très forte.
Oui.
La droite, c'est la seule bonne nouvelle pour elle, a maintenu ses positions ou à peu près au régional, au départemental, au municipal, même si dans le détail, on s'aperçoit que beaucoup de maires, de présidents de départements, etc., sont de plus en plus des divers droites, plus que des gens véritablement LR. Mais malgré tout, ils ont cet ancrage extraordinaire, ce qui explique qu'ils ont un nombre d'adhérents relativement important, plus nombreux, par exemple, que le Rassemblement national. Donc, ils n'ont pas de stratégie nationale pour l'instant. Ils sont très peu présents. Enfin, vous vous rendez compte, moins de 5%, c'est quand même terrible. Mais c'est quand même c'est un peu un géant endormi, en quelque sorte, d'un point de vue électoral.
Alors, Jérôme Sainte-Marie, il y a cette éventuelle porosité avec le Rassemblement national. On se souvient par ailleurs qu'Éric Ciotti lui avait dit qu'il pourrait voter pour Éric Zemmour au deuxième tour de l'élection présidentielle en cas de duel face à Emmanuel Macron. C'est le candidat de Reconquête dont on va parler à présent, puisqu'il monte sur la scène du Palais des Sports de Paris aujourd'hui. C'est le premier anniversaire de son parti. Il faut absolument relancer pour lui la dynamique pour ne pas disparaître des radars.
Oui, c'est très compliqué. Donc l'espérance de Reconquête, c'est bien sûr les élections européennes, où généralement les partis comme ça, souverainistes, les partis monothématiques, arrivent à faire un score. Mais ça va être très compliqué parce qu'ils vont apparaître comme affaiblissant les chances de la liste RN d'être en tête, ce qu'elle avait été aux deux dernières élections européennes, et donc de jouer finalement un peu la politique du pire, c'est-à-dire pour leurs électeurs, c'est-à-dire une politique, une candidature qui ne pourra que renforcer les chances de la liste de La République En Marche d'arriver en tête. Donc c'est là où eux aussi sont dans une impasse stratégique à peu près totale. Tous les paris qu'a fait Reconquête il y a un an, eh bien, ont été perdus, la qualification pour le second tour, l'existence au niveau parlementaire, l'existence même du parti. Ils sont désormais concurrencés par une Marine Le Pen qui est en seconde position dans les classements de popularité. C'est tout à fait original, enfin, ça n'arrivait pas. Et l'émergence également de Jordan Bardella, qui, démode beaucoup d'autres candidats. L'effet de nouveauté qui avait beaucoup porté, et le brio particulier d'Éric Zemmour qui a beaucoup porté cette candidature, aujourd'hui est très largement estompé.
Avec justement un Jordan Bardella qui peut aller récupérer les voix plus identitaires, évidemment. Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie d'être
Merci
venu à décrypter cette actualité politique aujourd'hui sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes sondeur politologue et président de Pollingvox. La politique, c'est également Emmanuel Macron qui a confirmé une nouvelle fois, que ce soit sur TF1 hier ou dans Le Parisien ce matin, son souhait d'aller jusqu'à la retraite, jusqu'à 60 ou 65 ans, travailler plus longtemps, c'est le seul levier, dit-il, pour faire face aux besoins de financement. C'est ce que contestent en partie les syndicats. Ils se réunissent d'ailleurs demain, alors qu'une première grève s'achève ce soir à la SNCF. On va regarder avec Margot Faudéré les grandes dates de l'agenda syndical.
La prochaine étape, c'est l'intersyndicale qui va réunir demain les 8 syndicats nationaux pour parler des retraites. Parmi eux, la CFDT, la CGT, Force ouvrière ou encore Solidaire. L'objectif, s'accorder pour trouver le bon moment d'organiser les mobilisations en cas de passage en force du gouvernement sur le dossier des retraites. Cette réunion sera ensuite suivie par la clôture jeudi des élections des représentants syndicaux dans la fonction publique, pour le moment dominée par la CGT. Et puis attention au voyage en train à la fin de l'année. À la SNCF, les chefs de bord ont déjà déposé des préavis de grève pour les week-ends de Noël et du jour de l'an.
Les précisions de Marco Faudéré. Et puis dans le reste de l'actualité en France, la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires déplore le niveau désolant, je la cite, de la vaccination contre le Covid. Dans le JDD, Brigitte Autran appelle à renforcer le port du masque et des gestes barrières. Mais pour le docteur Arnaud Chiche, qui est anesthésiste et fondateur du mouvement Santé Endogé, ça ne suffit même pas.
C'est pas normal d'hésiter ou de recommander chaudement. Ça devrait être automatique. À partir du moment où l'incidence du Covid augmente, automatiquement, on devrait tous remettre des masques à partir du moment où on est dans des endroits isolés, clos, qu'il n'y a pas d'aération. Alors, à partir du moment où la Première ministre, elle hésite un peu, la population, forcément, elle se dit qu'elle a peut-être le choix. Il n'ose plus trop peser sur la population parce qu'en regard de ça, depuis 2 ans et demi, l'état de l'hôpital, il n'a pas bougé. Il est là le problème. Alors, il faudrait que la population fasse un effort. Et oui, moi, le masque obligatoire, ça me choque absolument pas. Mais d'un autre côté, en même temps, il faudrait que l'exécutif dise à la population et aux Français, on va tout faire pour résoudre les problèmes de santé en France. Mais ça, on ne l'entend pas. Donc on dit, oui, s'il vous plaît, mettez des masques.
Et le COVARS, qui a remplacé le Conseil scientifique, rendra un avis complet sur la situation épidémique dans les prochains jours. À 12h52 sur Europe 1, l'actualité à l'étranger et direction l'Estonie, où l'armée française entraîne les militaires à défendre leur territoire. Ce pays, membre de l'OTAN, est très inquiet pour sa sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et depuis hier, 185 Français, 90 Britanniques et 300 membres de la Ligue de défense de l'Estonie y mènent un exercice d'envergure dans des conditions extrême, le froid, la neige, le vent. Notre envoyé spécial en Estonie, William Molinier, a suivi les militaires du 13e bataillon de chasseurs alpins.
Il est 15h, la nuit tombe sur l'île de Saaremaa. La température approche les moins 10 degrés. La première classe Samuel fait chauffer de l'eau.
Alors là, c'est des nouilles orientales. Mais c'est pour ça que là, dès qu'on peut, on fait un café, des nouilles chaudes.
Les chasseurs alpins sont habitués au froid, mais celui-ci est particulier, comme l'explique le chef de section Maxime.
Alors la sensation qu'on a, c'est que c'est un peu plus humide, comme on est vraiment bas et que c'est beaucoup de marécages partout. Un froid humide va être beaucoup plus efficace, et là on l'a vu ce matin. Dès que le vent s'est levé en bord de mer, ça, on a tout de suite ressenti la différence.
Ils savent crapahuter, construire des igloos, tenir des cols, mais en Estonie, le relief est inexistant et les Français doivent adapter leur technique de combat.
On fait tout à la carte, et puis on s'adapte en fonction des cartes assez précises qu'on a, parce que tous les découverts sont vraiment bien marqués, la plupart des pistes sont vraiment bien réalistes. Il y a une partie des drones aussi qui peut nous être utile, on a eu tout à l'heure des visuels sur un drone qui nous éclairait en avant des découverts.
Côté équipement, les Estoniens ont prêté aux Français des tentes de 12 places avec un poêle au milieu, de quoi faire monter la température pendant la nuit autour des 10 degrés. Sur l'île de Saaremaa, William Molinier, Europe 1.
Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui juge insuffisant le plafonnement du prix du baril du pétrole russe à $60 annoncé hier. Plafonnement décidé par les pays de l'Union, du G7 et de l'Australie. Volodymyr Zelensky estime qu'il ne s'agit pas d'une décision sérieuse. Il suggère un prix 2 fois plus bas. Et puis est-ce un signe que la révolte a porté ses fruits en Iran? Le procureur général iranien Mohamed Montazeri a annoncé que la police des mœurs avait été abolie par les autorités compétente ce matin. Louise Douillet, qu'est-ce que ça signifie ?
Que les Iraniennes ne seront plus réprimées si elles ne portent pas leur voile dans l'espace public, si leur tenue est trop courte, trop moulante ou trop voyante, ou plutôt que ce ne seront plus ces patrouilles d'hommes en uniforme vert et de femmes en tchador noir qui les rappelleront à l'ordre, mais une autre unité, de l'avis du chercheur émérite à l'EHESS, Farhad Khosrow-Kavar.
Ils ont 1000 polices qui peuvent intervenir, l'armée des pastarans, les civils, c'est-à-dire habillés en civil. C'est un régime omni-répressif, c'est un régime que j'appelle thanatocrate, c'est-à-dire qu'il ne sait pas régler les problèmes sociaux, il ne fait que réprimer. Par conséquent, cette demi-mesure ne changera strictement rien à la nature des manifestations de mon point de vue.
Rien, car le port du voile reste obligatoire et que même s'il devenait facultatif, cela ne suffirait pas à calmer la colère des manifestants.
Les slogans ne sont plus « femme, vie, liberté », mais « abat le dictateur, abat le régime ». Il y a un changement de la nature de ce mouvement qui s'est transformé en dénonciation globale d'un régime totalitaire.
Un régime au sein duquel plus de 300 personnes ont été tuées en 2 mois et demi de protestations.
Les explications de Louise Douillet pour Europe 1.
Europe Midi Weekend, Lénaïque Monnier.
Il est 1h05 et il aurait 100 ans. Aujourd'hui, on parle de Gérard Philippe ce midi avec un monument évidemment du cinéma et du théâtre des années 50. Et pour l'occasion, eh bien, la Cinémathèque française lui consacre une rétrospective avec ses films les plus marquants comme Fanfan la Tulipe évidemment. Une rétrospective chapeautée par Nicolas Herp, maître de conférence à l'Université Paris 8, historien du cinéma français.
Il est certain qu'il a renouvelé le jeu théâtral parce qu'il avait évidemment une diction impeccable. Il avait fait ses classes au Conservatoire d'art dramatique de Paris.
J'ai rencontré le lendemain de mon arrivée un ennemi digne de moi. J'ai rencontré la fidélité.
Mais il a porté à ça une dimension supplémentaire que n'avaient peut-être pas les gens des générations précédentes. C'était à la fois la beauté physique, car c'était peut-être la première fois qu'un acteur était aussi beau.
Les boutiques sombres, écrasées sous des plafonds en fumée, où l'on vend dans les ténèbres d'obscures marchandises, ont fait leur temps. Nous devons préparer le XXe siècle.
Quelle éloquence! Vous êtes le poète lyrique de la bonne étrique.
Ah, les femmes, croyez-moi, c'est mon rayon.
Je commence à le craindre.
Alors que Gérard Philippe était vraiment un éternel jeune premier. Et puis ensuite, il y a eu évidemment la dimension cinématographique qui lui a permis de transcender ce côté théâtral pour aller vers quelque chose de beaucoup plus incarné.
Noël Herp, interrogé par Marie Jiquel pour Europe 1. La rétrospective consacrée à Gérard Philippe, c'est à partir de mercredi prochain et jusqu'au 22 décembre à la Cinémathèque française à Paris. Un dernier mot avec cette bonne nouvelle pour le Téléthon. Les promesses de dons ont augmenté finalement par rapport à l'an dernier. On est à 78 millions d'euros et vous pouvez donner jusqu'à vendredi prochain par téléphone toujours au 36 37 ou bien sur le site internet du Téléthon. Il nous reste à voir le temps. Valérie Darmon, bah c'est un temps à écouter la radio bien au chaud. Il fait gris, il fait froid et il neige.
Effectivement, que se passe-t-il dans notre ciel? Eh bien, les précipitations qui remontent de Méditerranée vers les départements situés entre l'Ardèche et le Cantal se confrontent à de l'air froid ambiant. Et donc, tout cela fait que ça se transforme en neige. Ce qui fait qu'à partir de 900 mètres, eh bien, elle tient au sol sur quasi tous nos reliefs. Il neigeote aussi ici ou là sur toute la moitié nord jusqu'en Normandie, dans un ciel très très gris. Ailleurs, du littoral vendéen au nord du Pays Basque, il pleut dans un ciel ne laissant que peu de place aux éclaircies. Dans l'intérieur de la région Aquitaine et de Midi-Pyrénées, jusqu'au littoral audois, peu à peu, elles arrivent tout de même à s'installer timidement à partir de maintenant. Mais les nuages bas et les brouillards vont les rattraper en toute fin de journée vers le Midi Toulousain et la vallée de la Garonne. En PACA, les pluies soutenues et orageuses s'étendent maintenant du Massif central à l'Hérault et aux Bouches du Rhône. Il neige à partir de 1200 mètres et puis 800 en fin de journée. Les maximales s'échelonnent de 2 à 4 degrés des frontières du Nord-Est à 8 à 10 en Aquitaine, 10 à 12 dans le Sud-Est et 12 à 14 sur le pourtour de la Grande Bleue.
Merci Valérie Darmon, très bon dimanche à vous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet qui reçoit Michel Simès aujourd'hui. Et nous, on se retrouve à 13h tout pile pour un dernier point sur l'info. À tout de suite.